Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de
Dieu
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Quand vous voyez quelqu'un comme moi aussi ému, ça veut dire que Dieu est puissant. Je n'étais pas comme ça. De sa présence. Sa présence. Merci. Vous savez, Dieu des fois permet que des choses qui ne sont pas agréables vous arrivent. Et j'ai compris qu'au travers de chaque situation que Dieu permet, il y a une leçon à tirer. Dites Amen. Dans chaque situation, tu peux voir l'obstacle ou tu peux voir l'opportunité. Tout est une question de choix. Tu peux voir la possibilité, mais tu peux aussi voir le problème. Tout est une question de choix. Et vous savez, j'ai passé, pour quelqu'un comme moi qui me déplace beaucoup, j'ai passé 9 semaines sans ma voiture. Alors pour quelqu'un, si ça veut rien dire, et quand tu es habitué à sortir tous les jours, à ne pas prendre les transports en commun, 9 semaines sans voiture, c'est un brisement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et alors quand j'ai récupéré ma voiture le jeudi dernier, j'étais bien content. Après 9 semaines. L'absence. Et hier matin, il y a quelqu'un qui m'appelle à 11h pour me dire, il faut que tu viennes dehors, je crois que ta voiture est cassée. Et je lui dis, tu es sûr que tu parles de la mienne? Il me dit, bien sûr. Et il me dit, les portières sont ouvertes, la vitre est cassée, la boîte à gants a été ouverte. Et comme par hasard, c'est la seule voiture qui a subi ça dans le quartier, sur toute la rue. Après, il m'a dit, ça m'a fait rire. Non, d'abord, je trouvais ça très désagréable. Je me suis dit, bon, ok. Seigneur, je vais reprendre le centuple derrière. Si je sors 1 franc pour cette voiture, je réclame 100 francs en retour. Et c'était pas évident. Parce qu'on avait un mariage l'après-midi avec ma femme. Au travers de tout ça, le Seigneur m'a montré simplement, même quand c'est inconfortable, apprends à me louer. Même quand ce n'est pas intéressant, même quand tu n'as pas envie, apprends à m'adorer. Et j'arrive là ce matin, la sonnerie ne marche pas. Je dis encore. Et là j'étais énervé. J'avais 2 possibilités. Soit je m'énervais, parce que je ne supporte pas ça, soit je le loue. Alors j'ai pris la 2e option. J'ai dit je vais le louer. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai dit je vais regarder à personne, je m'en fiche. Si quelqu'un ici ne comprend pas l'importance de l'adoration, si quelqu'un ici est conditionné par les pianos, je m'en fiche, je ne suis pas conditionné par tout ça. Je vais quand même l'adorer. Et j'ai pris mon temps, j'ai simplement baissé ma tête. Et pendant que je chantais, la raison pour laquelle je pleurais, c'est parce que simplement à un moment donné, je sentais comme si une voix me disait, ok, tu as passé le test. Tu as passé le test. C'était un test. Et Dieu teste. Simplement pour te montrer que tu n'y es pas. Et que tu as besoin d'aller encore à une autre dimension. S'il voit que tu ne passes pas le test, il va le remettre devant toi. Et c'est pour ça que j'étais ému. Parce que la voix me disait, c'est bon, tu as passé. Alors j'ai dit, Amen Seigneur, merci. Et je sais que ce n'est pas fini, c'est un processus. Amen. Je voudrais simplement qu'avec moi aujourd'hui, vous Aujourd'hui, il y a une personne qui est très chère pour nous, pour mon pasteur Yves et puis pour moi-même, qui est évidemment quelqu'un de très important dans notre vie. Et je voudrais simplement qu'on prenne le soin de bénir Dieu pour elle. Nous ne sommes que ce que nous sommes aujourd'hui parce que des personnes ont fait de leur mieux pour nous propulser vers notre destinée. Elles n'ont pas tout fait, mais elles ont mis les bonnes fondations. Et je reconnais que beaucoup d'autres n'ont pas reçu l'amour que j'ai reçu. Alors, et ma mère qui est là aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour ma mère. Maman, lève-toi. Amen. La raison pour laquelle vous acclamez comme ça et que Dieu vous bénisse, c'est parce que vous savez qu'on ne pouvait pas être ce qu'on est aujourd'hui sans une mère. Pas une femme, mais une mère. Une femme est une personne qui porte une semence, qui transporte. C'est tout. Une mère est une personne qui crée une atmosphère où la vie peut se multiplier, où la vie peut se développer. C'est ça, une mère. Dites Amen. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, je sens que j'ai du mal. Vous savez, le Saint-Esprit vous prend, il vous attrape comme ça. Puis vous avez l'impression qu'il ne vous lâche pas. Et ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, brusquement, je ne sais pas ce qui se passe. La semaine dernière, qui était béni la semaine dernière? Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Ah, j'aime la parole. Cette semaine encore, le Seigneur encore m'a ouvert les yeux. Il m'a encore montré des choses. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. Quand est-ce que je vais comprendre finalement ce sujet, ce thème du royaume de Dieu? Et puis je crois que finalement, il m'a dit dans mon esprit, tu l'auras jamais assez bien compris. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, je vais continuer d'apprendre. Nous avons parlé, nous sommes toujours sur les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume de Dieu. Tout le monde a entendu parler du royaume de Dieu. La plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et je vous ai dit la semaine dernière, lorsque vous pensez au royaume de Dieu, pensez à un royaume terrestre. Sauf que la différence est que celui-là, il est céleste, c'est-à-dire qu'il est plus réel que celui que tu as devant toi aujourd'hui. Parce que les choses invisibles sont beaucoup plus réelles que les choses visibles. Quelqu'un me dira, oui, mais on ne les voit pas. Tu n'as pas besoin de les voir. Tout ce qui existe, tout ce qui existe dans cet endroit a été conçu d'abord dans l'esprit de quelqu'un. C'était invisible. Sous forme d'idées, sous forme d'image. Et cette image a été matérialisée en utilisant des matériaux terrestres. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit la semaine dernière que la raison pour laquelle très souvent nous manquons de tout, spirituellement nous ne sommes pas satisfaits, émotionnellement nous ne sommes pas satisfaits, financièrement nous ne sommes pas satisfaits, c'est simplement parce que nous n'avons pas compris quelque chose de très important. Jésus a dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de quoi est-ce qu'ils vont se vêtir. Ce ne sont les païens, ce ne sont pas les athées. Ce sont des gens qui croient dans des divinités, dans des faux dieux, dans des démons. Jésus a dit, ce sont les païens qui ont ce genre d'attitude. Mais vous cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Et il a pris la comparaison, il a dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant l'Éternel les nourrit. Et nous avons dit la semaine dernière, oui, tu te dis, mais cette parole ne veut rien dire. Si, elle veut dire quelque chose. Parce que l'oiseau, lorsqu'il vole, il ne fait qu'exprimer sa nature. Il est naturel. Il ne fait qu'exprimer ce pourquoi il a été créé. Pour voler, Et lorsque l'homme ne manifeste pas la nature de Dieu, lorsque l'homme ne manifeste pas le caractère de Dieu, lorsque l'homme ne manifeste pas la ressemblance à Dieu, Dieu marche par la foi, Dieu fait tout par la foi, alors il dit, toi aussi fais tout par la foi. Dieu est influent, alors il dit, sois influent. Dieu règne, alors il dit, toi aussi règne, mais commence par toi-même d'abord. Règne d'abord sur toi. Ensuite, influence l'environnement dans lequel je t'ai mis. Montre ma nature, montre ma sainteté, montre ma pureté, montre mon abondance, montre ma puissance. C'est pour cela que tout ce que Jésus a été, c'est ça que nous devons être. Quelqu'un croit ici que ce que Jésus a été, tout ce qu'il a fait, il a fait en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il a fait ça, il parlait toujours de lui comme étant le fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain. Alors la raison pour laquelle nous ne sommes pas épanouis, c'est simplement parce que nous ne remplissons pas les fonctionnalités pour lesquelles nous avons été créés. C'est simplement parce que nous ne sommes pas ce que nous avons été appelés à être. Dites Amen. Lorsque tu es la personne que Dieu t'a appelé à être, pas toi, mais cette personne qui a été placée en Christ avant la fondation du monde, cette personne qui manifeste la nature de Dieu, c'est-à-dire qui est naturelle lorsqu'elle marche dans la sainteté, qui est naturelle lorsqu'elle marche dans la pureté, dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la fidélité. Cette personne est naturelle lorsqu'elle marche dans l'abondance, parce que Dieu est abondamment puissant. Il est infiniment illimité. Il a dit, le ciel et la terre m'appartiennent. Alors c'est un paquet. Tant que tu n'es pas cette personne-là, tu expérimenteras comme tellement d'individus sur la terre, le manque, la frustration, l'angoisse, la colère. Des fois, tu te lèves le matin. Ah, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est normal. C'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ah, je me sens angoissé. C'est normal. Tu n'es pas reconnecté à lui. Tu as besoin de lui. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, il est important de comprendre que tu n'es une réussite que lorsque tu accomplis ce pourquoi tu as été conçu. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous comment est-ce que je fais pour être cette personne que Dieu m'a appelé à être. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, verset 9 à 10. Encore. La Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance, avant la fondation du monde, des bonnes œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Le mot œuvre en grec, c'est un mot qui veut aussi dire simplement en français travail. Alléluia. Travail. C'est une mauvaise nouvelle pour les paresseux. Parce que Dieu aime le travail. Alléluia. Alléluia. Dieu aime le travail. Je n'ai pas dit Dieu aime le boulot. 95% des gens ici bossent. Ils ne travaillent pas. Ils font une activité. Oh, soit de manière, soit intellectuelle, peu importe. Mais ils font une activité régulière, récurrente, permanente. Mais ils ne travaillent pas. Parce que travailler, c'est une bénédiction de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous considérons le travail, le boulot qu'on a comme une malédiction, comme un fardeau. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. Le travail, c'est le moyen par lequel Dieu veut que tu libères ton potentiel. C'est pour ça que Dieu n'est pas pour la retraite. Oh oh. Oh oh. Dieu n'est pas pour la retraite. Dieu est pour le repos. Je vais vous dire pourquoi. Quand quelqu'un prend sa retraite à 65 ans, laissez-moi vous dire une chose. Généralement, il a été constaté, étant donné que la maturité, l'expertise même qu'on acquiert au niveau professionnel est un processus, vous remarquerez que les gens vers 50, 55 ans, 60 ans sont beaucoup plus affûtés à 60 ans qu'ils ne l'étaient à 30 ans. Est-ce que je dis vrai? Je n'entends rien.
ils sont beaucoup plus affûtés. Et à 65 ans, lorsqu'il a acquis une solide expérience, il est maintenant capable de former d'autres personnes. On lui dit, toi, va au placard. À la retraite. Et alors, si la personne, c'est-à-dire la, ce qui est le cas de la, la majorité de la population française et dans tous les pays du monde, si la personne n'a pas une vision pour sa propre vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait plus rien. Et c'est ce qu'on appelle l'atrophie, la léthargie. Elle commence à mourir. Pourquoi? Parce que c'est une, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'homme a besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il a besoin simplement de, en permanence et en permanence et en permanence, libérer le potentiel que Dieu a placé en lui, libérer cette richesse que Dieu a placée en lui, libérer les talents, la créativité, l'imagination que Dieu a placée au-dedans de lui. Il a besoin, parce que s'il ne libère pas ça, à un moment donné, il se sent en train de rétrécir, de rétrécir, de rétrécir. Plus de vision, plus d'espérance, plus de passion. Et il commence à mourir tout simplement. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'est pas pour la retraite, Dieu est pour le travail. C'est pour ça que même quand tu vas arrêter ton boulot, ne prends pas de retraite. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Quand tu arrêteras ton boulot, ne prends pas de retraite. Parce que tu vas continuer à libérer le potentiel que tu as placé en toi. Tu vas continuer à te développer et à développer la vie des autres. C'est pour ça que j'aime les gens comme les Kenneth Hagin. J'entends parler de gens qui ont 80 ans, comme Billy Graham, qui continuent encore aujourd'hui de prêcher l'évangile. Pourquoi? Il n'a pas pris de retraite. Pourquoi? Parce qu'il a toujours quelque chose à libérer hors de lui. Celui qui a compris ça, acclame le Seigneur. Donc la retraite, c'est pas biblique. Mais Dieu veut qu'on se repose. Parce que lorsqu'on est sur le voyage de sa destinée, on a besoin de faire des haltes pour souffler. Et puis pour commander en anglais, enjoy, pour apprécier simplement les choses que Dieu fait dans nos vies. Dieu est pour le repos. La Bible dit, entrez dans le repos de la foi. Beaucoup de gens ne sont pas dans le repos. Ils sont stressés, tourmentés tous les jours. Il se lève le matin, il voit un moustique, il dit ça c'est un démon. Il reçoit un coup de fil, il dit ça c'est le sorcier. Et puis dès qu'il raccroche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon frère, tu n'as pas le repos. Tu es tourmenté. Quelqu'un qui est dans le repos, quand on lui dit ça c'est le sorcier, il dit ah bon, viens sorcier, touche-moi. Puis le sorcier, s'il est intelligent, va dire non, je ne te touche pas. Tu as quelque chose, je ne veux pas. Touche-moi quand même, mon ami, viens. Ça c'est le repos. Alléluia. Je suis tellement désolé quand je vois des gens qui ont peur. Ah, l'ignorance nous détruit. Ça ne me détruit pas au nom de Jésus. Pas moi. Alléluia. Alors tout ce que je dis depuis 3 semaines sur les clés du royaume des cieux, le royaume de Dieu, est très important. On a dit que lorsqu'on pense royaume, pensant à un pays comme la Grande-Bretagne, comme la France, parce que la France était à l'époque un royaume. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un pays? Simplement parce qu'un royaume a un roi, a des territoires sur lesquels le roi gouverne. Le ciel est un de ces territoires. La terre est un autre territoire sur lequel Dieu est venu par Jésus-Christ rétablir, pas établir, mais réétablir son règne, c'est-à-dire sa domination, sa souveraineté, son influence. Lorsqu'on pense pays, on pense à des lois, des articles de loi. L'article 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est la constitution. Lorsqu'on pense royaume, on pense système de sécurité. On pense armée, on pense police. Et alors on pense aux anges de l'Éternel. Qui campent autour de ceux qui le craignent et qui les arrachent à tout danger. Lorsqu'on pense royaume, on pense à des droits civils qui sont attribués par la Constitution à tous les citoyens. À pas à tous les membres d'une religion, mais à tous les citoyens d'un pays. Alors ce que je dis, voyez-vous, le monde a compris certains principes qui sont bibliques, qui sont appliqués dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que dans beaucoup de domaines, ils arrivent à s'en sortir. Tandis que nous, enfin eux, les chrétiens religieux, qui n'ont pas compris les principes du royaume de Dieu, qui ont compris une chose très importante, qui est la plus importante de toutes, c'est la présence de Dieu. Mais il y a aussi les principes. On a compris la présence, mais on a négligé les principes. Ce qui fait qu'on manque de tout. Le sel qui aurait dû donner la saveur ne donne plus de saveur. La lumière qui aurait dû éclairer est complètement éteinte. Et lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle ose parler, on lui dit fermez votre bouche. Vous voulez dire quoi? Parce qu'on n'a pas compris le royaume de Dieu. Alors lorsqu'on pense pays, on pense code de comportement, on pense système économique, c'est-à-dire un système avec un système de taxation, avec une monnaie. Et dans le royaume de Dieu, il y a un système de taxation. Parce qu'un pays se construit à l'aide des taxes. Donner à César ce qui lui appartient. Et donner à Dieu ce qui lui appartient. César construit son empire sur la terre. Moi, je construis mon royaume sur la terre. Mais avec les taxes prélevées sur les comptes des citoyens du pays. Alléluia. Alors, quelqu'un me dira, « Ah, moi, je ne paye pas la dîme. » Oh, mon ami, tu payes la dîme. Tout le monde paye la dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Tout le monde la donne. Il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui a demandé à un autre pasteur, « Est-ce que chez toi, les gens payent la dîme ?» Il a dit, « Tout le monde paye la dîme, 100%. » Il a dit, « Comment tu fais ? 100% des gens donnent la dîme dans ton église ?» Puis il dit, « Oui, comment se fait-il ? » Puis il a dit, « Mais c'est très simple. 50% donnent volontairement, et puis les 50%, Dieu prélève automatiquement sur leur compte. » Ça dit que ça disparaît quand même. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es toujours fauché. Tu es toujours fauché. La poche est trouée, mon ami. Ça sort quand même. Alléluia. Quelqu'un me dira, oui, mais dans le monde, je ne donnais pas. Non, parce que tu étais citoyen français ou citoyen africain. Mais aujourd'hui, tu as la double nationalité. Me suivez? J'ai le passeport céleste, j'ai le passeport terrestre. Alors, je dois cotiser dans les deux caisses. Je dois cotiser dans les deux régimes d'imposition. Parce qu'il n'y a pas de convention fiscale entre les cieux et la terre. Parce que ils ne se sont pas mis d'accord. Les gens de ce monde n'aiment pas ce que nous disons. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Alors, si j'ai donné la formule, à César, tu donnes ce qui lui appartient. Et puis, dans le royaume de Dieu, tu mets ce qu'il te faut. Tout dépend de toi. Le royaume de Dieu, c'est une autre mentalité. Dites Amen. Que nous n'avons pas compris. Alors, la première condition pour entrer dans le royaume de Dieu, je n'ai pas encore commencé mon thème d'aujourd'hui. La première condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la citoyenneté. Dites Amen. Pour être citoyen français, pour être citoyen anglais, il faut souscrire un certain nombre de critères. Pour être citoyen du royaume des cieux, il faut souscrire un certain nombre de critères. Alors ce que je dis aujourd'hui, je suis en train de vous parler des clés. Alors voilà la révélation que j'ai reçue dans la semaine qui m'a ébloui. Qui veut l'écouter? Dites-moi, dis-le. Non, je ne l'ai pas entendu, je ne dis plus. Ok. La révélation, c'est la suivante. Le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, regarde en France, est-ce que tu crois que les gens qui réussissent au niveau des entreprises, est-ce que les entreprises les plus performantes sont détenues par des Français? Forcément. Non. Mais la France aussi a des lois. Alléluia. Et même si tu es burkinabé, malien, quel pays encore est loin ici? Sud-africain, Zimbabwe, et que tu viennes en France, en appliquant les lois qui sont régies, les lois qui sont appliquées sur le territoire français, tu peux très bien faire quelque chose qui marche simplement parce que tu suis la loi. Vous me comprenez? Si j'applique les lois du pays, je n'ai pas de problème. Les lois, c'est des principes. Si je les applique, ce que je fais réussira. Dites Amen. Mais ce n'est pas ça qui te donne la nationalité. Ça ne te donne pas la citoyenneté française. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit, il faut naître de nouveau. il faut que ton esprit revienne à sa source, qu'il reparte être connecté à Dieu. Naître de nouveau. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ont le langage qu'on a dans l'église. C'est-à-dire, ils parlent le français. Mais tu peux être zimbabwéen, puis parler français. Ça ne fait pas de toi un français. Alléluia. Suivez-moi. Tu peux être américain. Ça ne fait pas de toi un français. Par contre, tu peux parler couramment français. Tu peux parler couramment le langage de Christ. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, bénédiction, onction, prospérité, délivrance, chasser les démons. Alléluia, frère, oh, et tu chantes dans la chorale. Tu parles le langage, mais tu n'es pas forcément citoyen du royaume. On ne devient pas citoyen du royaume par association. C'est pas parce que tu côtoies les Français que tu deviens Français. C'est pas parce que tu me côtoies que tu deviens toi aussi citoyen. Ça ne s'acquiert pas par association. Ça s'acquiert par naturalisation. Tu dois suivre le processus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le royaume de Dieu, c'est une autre mentalité. Est-ce que tu es sûr que tu as le passeport céleste? Est-ce que tu es sûr que tu as le passeport? Je n'ai pas dit, est-ce que tu as l'église? Non. Je dis, est-ce que tu es sûr d'avoir le passeport du royaume des cieux? La différence, c'est que le royaume de Dieu n'est pas visible, il est invisible. Mais d'ici, mon frère et ma soeur, tu ne vois pas l'Amérique. Pourtant, l'Amérique t'a influencé quand même. Les jeunes d'aujourd'hui, Michael Jordan, Reebok, Nike, et vous avez été colonisés par l'Amérique. Nous parlons tous anglais, même à ICC. Mais qui nous a pris ça? Ce sont les anglophones. Je peux être ici, mais recevoir une influence extérieure. Et Dieu veut que sur la terre, je vive l'influence du royaume de Dieu. Alors, les païens peuvent appliquer ces lois et ça marche. Quelqu'un dans cette salle peut être ici, appliquer les lois que je vais enseigner et ça marche. Mais ça ne te donne pas la citoyenneté. La Bible dit que ni les débauchés, ni les impudiques, ni les adultères, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni toutes ces catégories d'individus ne pourront hériter, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas réconcilié d'abord avec Dieu peut bénéficier des lois appliquées dans le royaume de Dieu, mais il ne peut pas être citoyen du royaume de Dieu. Alors il sera surpris de dire, mais moi j'étais avec eux tout le temps. Seigneur, comment? Mais moi si j'ai chassé, je connaissais les formules. Au nom de Jésus, je chasse. Je parlais le langage moi aussi. Mais comment donc tu me dis, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Mais comment? Tu n'as pas le passeport. Tu n'as pas le passeport. Et contrairement à tous les pays de la terre, où les clandestins peuvent réussir à passer, au royaume de Dieu, on ne peut pas passer par la clandestinité. Tu ne peux pas être clandestin dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, ayez confiance dans ce royaume-là. Aucun pays de la terre aujourd'hui n'est en sécurité face au terrorisme. Vrai ou faux? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Aucun pays de la terre, l'Amérique pensait être en sécurité. Ils pensaient être à l'abri jusqu'au 11 septembre 2001. Ils se sont dit, mon Dieu, même nous, la plus grande puissance du monde, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que même là-bas, Ben Laden peut arriver et déposer des bombes. Mais dans le royaume de Dieu, pas d'inflation, pas de déflation, pas de dévaluation de monnaie. Tout ce que j'ai semé est garanti au centuple. Dans le royaume de Dieu, pas de terreur. Impossible, parce que Dieu règne. Et là où il règne, tu ne verras pas Satan venir dire, ah, je vais... Il va dire, Minus, dégage. Dégage. Alors quand je comprends ça, ça me donne envie d'être citoyen. De demeurer citoyen de ce pays qui s'appelle le royaume de Dieu. Et lorsqu'on est citoyen de ce royaume, il faut connaître la constitution de ton pays. La constitution, c'est la loi. C'est ça. Quelqu'un me dira, mais c'est dur à comprendre. Quand je dis je ne comprends pas, c'est normal. Parce que dedans, c'est du langage juridique. C'est du droit. Il te faut un avocat pour interpréter le langage juridique. Il s'appelle le Consolateur, notre avocat auprès du Père. Parakletos en grec. Il est le Consolateur. Quand tu ne comprends pas le langage juridique, tu dis simplement Saint-Esprit parce que tu es l'avocat. Tu es le Consolateur. Parce que le mot Parakletos veut aussi dire avocat, protecteur, ami, compagnon, défenseur, soutien. Il veut tout dire. Alors je dis simplement, s'il te plaît, toi qui comprends le langage juridique, explique-moi ce livre et accorde-moi la révélation. Et puis c'est simple et il t'explique la révélation. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans la semaine. Et quand je recevais ça dans mon esprit, je disais, oh, c'est merveilleux. Seigneur, c'est merveilleux. Ça veut dire que les principes, les païens peuvent l'appliquer. Ça marchera. Mais ils n'auront pas la citoyenneté. Connaître les lois, appliquer les lois, te garantit la réussite. Mais ça ne te garantit pas la citoyenneté. Pour rentrer dans l'éternité, dans la présence de Dieu, il te faudra la citoyenneté. Il ne faudra pas avoir côtoyé. Il ne faudra pas être seulement associé. Il faudra que toi-même, tu aies le passeport. Parce que ce jour-là, quand tu vas passer les frontières, on te dira, passeport s'il vous plaît. Je n'ai pas, moi je suis le pasteur. Non, 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 non. Passeport s'il vous plaît. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, nous ferions mieux de comprendre que le royaume de Dieu, la citoyenneté, c'est simplement la reconnexion avec Dieu. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu n'as pas Christ, pas la religion, mais Christ, pas le christianisme, mais Christ, tu n'as pas le passeport. Tu ne passeras pas. Tu pourras faire plein de trucs sur la terre, mais ça ne passera pas. Maintenant, à tous ceux qui ont la citoyenneté et qui entrent maintenant, qui ont ce passeport du royaume de Dieu, c'est-à-dire qui sont reconnectés avec Dieu, parce qu'il est notre source, il est notre Père, notre soutien, notre protecteur, notre défenseur, celui qui nous développe. Il faut savoir une chose. La Bible dit que tu as été créé, prédestiné en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Écoutez-moi bien, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous soyons tous parvenus à la statue parfaite du Fils de Dieu. Ce verset a été, je crois, à mon avis, très mal compris par les religieux. Ils nous ont fait croire qu'avoir un ministère, ça voulait dire être pasteur, prophète, docteur, évangéliste ou apôtre. Ce qui fait que quand les gens n'ont pas parmi ces cinq classes, classifications, quand ils n'appartiennent pas à ça, ils se sentent complètement ridicules ou petits. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, on lui dit, toi, je sens que tu es appelé au ministère. Pensant que ministère, ça veut dire les cinq classifications que je viens de mentionner. Oh, le mot ministère, c'est un mot diakonoia en grec qui veut dire simplement le service. En vue de l'œuvre du ministère. Le mot œuvre, c'est le mot travail. Ça veut dire simplement que ces cinq catégories que Dieu a mis dans l'église sont là pour équiper les ambassadeurs du royaume de Dieu qui sont sur la terre, pour les équiper afin qu'ils soient capables tous d'accomplir le travail, l'œuvre au service du gouvernement qui les a envoyé. Alléluia. Chacun de nous a un ministère, oui, parce que chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a une œuvre, oui, parce que chacun de nous a quelque chose sur la terre pour lequel Dieu l'a placé. Je ne parle pas de ce que toi tu veux. Je parle de ce pourquoi Dieu t'a programmé. Il t'a programmé pour un but. Que quelqu'un dise Alléluia. Et tant que tu ne connaîtras pas ce but, tant que tu ne te mettras pas sur les rails de ta destinée, tu ne seras jamais épanoui sur la terre. Combien même tu auras de grandes maisons, combien même tu auras une église, J'ai écouté des témoignages de gens qui ont des grandes églises, comme Kenneth Hagin, qui avait une grande église, mais qui n'était pas épanoui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, il était simplement pas sur les rails de sa destinée. Et cette œuvre à laquelle Dieu t'appelle, cette vision que Dieu avait pour toi avant la fondation du monde, ce plan parfait qu'il avait pour toi, est expliqué avec plusieurs concepts. Certains mots peuvent, comment dire, ce concept peut simplement s'exprimer sous la forme des mots suivants. On peut parler de dessein de Dieu, on peut parler de destinée, on peut parler de rêve, on peut parler de vision, on peut parler de mission, on peut parler d'appel. Mais toutes ces choses englobent simplement le même concept. Lequel? Ce pourquoi Dieu t'a programmé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser. Alors, il y a peut-être certainement des nuances entre les différents mots, mais finalement, ils expriment tous la même idée. Destinée, vision, rêve. Je ne parle pas du rêve que tu as fait hier soir. Je ne parle pas du rêve qui consiste à vouloir imiter ce que le voisin d'à côté, il fait. Je ne parle pas de faire ce que ton papa et ta maman ont fait parce que tu trouves que c'est bien. Je parle de ce que Dieu a planté en toi avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça que je vous parle. Alors quand j'utiliserai le mot rêve, vision, destinée, mission, je parlerai non pas de ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie d'être commercial, j'ai envie d'être coiffeuse. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce rêve que tu as planté à l'intérieur de toi. Et que toi, tu bloques. Et que tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas toi encore. Je disais à une personne la semaine dernière, tu n'es pas toi. Toi, tu es une terroriste qui a pris la place de l'autre, qui est la vraie personne à l'intérieur. Tu l'as étranglé. Quand elle veut sortir, tu dis, non, reste. Parce que toi, le vrai toi n'a pas peur. Le vrai toi, ou la vraie toi, est une championne de la soirée. Le vrai toi est un géant. Femme de valeur, homme d'honneur. Vrai toi manifeste parfaitement la nature divine, il est naturel. Le faux toi dit, ah, j'arrive pas à marcher dans la sainteté, c'est trop dur. C'est pas toi, c'est un terroriste qui a pris la place à l'intérieur de toi. Dis-lui, sors de moi. Dis-lui, sors de moi. Je reprends le contrôle. Alléluia. Et ma passion, oh, ma passion, c'est de faire sortir de chacun de nous ce géant qui est à l'intérieur. Ah, beaucoup pensent que non, mon problème c'est Satan. Non, mon problème c'est ce que je ne connais pas. Parce qu'il a été démontré que l'image que tu as de toi est le fondement de ta vie. À partir de ce que tu vois de toi-même, à partir de l'image que tu as de toi-même, tu t'habilles, tu te comportes, tu travailles, tu parles. Tout ceci basé sur l'image que tu as de toi-même d'abord. Comment est-ce que tu te vois? Si tu as compris ce que j'ai compris sur le diable, tu ne pourras même pas passer ton temps à dire « Ah, Satan, au nom de Jésus, Satan, ah !» Dès que tu le vois, tu dis « Que veux-tu ?»«
Je vais t'attaquer. »
« Comment ?» Tu t'es trompé d'appartement. Bon, je ne tomberai pas chez le voisin parce que ce serait de la sorcellerie. Alors, tu retournes tout de suite d'où tu viens. Tu t'es trompé d'endroit. Comment oses-tu venir ici? Dégage maintenant dans le nom puissant de Jésus. Pars! Si tu es convaincu de ce que tu dis, il partira. J'étais possédé moi aussi quand je suis venu au Seigneur. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. J'en avais. Ils ont fait trembler mon corps. Mais personne ne m'a imposé les mains. Personne n'a pris du temps pour faire ma tête comme ça, torticolis. Faire tourner ma tête. Et enlève tes mains. Laisse-moi les mains. Si Dieu est Dieu, alors je suis convaincu qu'il peut s'occuper de moi. Et si je comprends qui je suis, et c'est ce que j'ai vécu, j'ai mes témoins, je ne mens pas. Moi, seul dans ma chambre, dans le nom de Jésus, sorcellerie, j'en avais tellement de liens de sorcellerie, mon Dieu. J'étais chargé. Entre les sorcelleries et les esprits de convoitise, parce que j'étais un vrai bordel. Mais quand toutes ces choses, quand j'ai compris J'ai dit maintenant dans le nom de Jésus que ce qui n'est pas de toi en moi sorte. Esprit d'impureté, esprit d'occultisme, esprit d'immoralité, malédiction, dehors. Parce que le Saint-Esprit reprend possession de son temple. Le roi de gloire est arrivé et il règne sur le trône de mon cœur. Tu n'as plus de place. Je t'ordonne de partir maintenant. Pas demain, pas après-demain. Maintenant, tu sors. Et mon corps a tremblé. Pendant une demi-heure, mon corps a tremblé. J'étais là. Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh 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 oh. J'étais là. J'ai dit oui. C'est fini. C'est fini. Je ne t'appartiens plus. Tu dégages. Je ne t'ai pas dit que c'était une option. C'est une obligation. Pas maintenant. Pas besoin que quelqu'un vienne dire. Ah, au nom de Jésus. Pas besoin de ça. J'ai dit tu pars maintenant. Je te l'ai dit maintenant. Tu dégages. Quand quelqu'un est aussi déterminé. C'est-à-dire que le démon, il dit, oh là 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 là, ok, 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 je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Puis quand il sort, il dit, ouf, on va essayer d'y retourner. Tu fais le mieux de dégager, parce qu'un autre roi a pris la place. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que la clé, c'est d'abord comprendre qui tu es. C'est pour ça que Jésus est venu enseigner le royaume. Il a chassé les démons, mais il a enseigné le royaume. Il n'a pas enseigné la démonologie. Jamais il a enseigné la démonologie. Jamais il a dit. Alors ça c'est l'esprit qui vient des Indes. Lui il vient d'Afrique, il s'appelle Mami Wata. Lui, il vient du Japon. Il n'a pas passé 100 ans à faire ça. Il a enseigné simplement aux gens. Qui êtes-vous? Je vous dis qui vous êtes. Quand vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez dire, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait encore en moi? Dégage! Maintenant, je sais qui je suis. L'identité, c'est la clé. Alléluia! Allez! L'identité! Je n'ai pas commencé mon message. Je crois que ce ne sera pas pour aujourd'hui, apparemment. Alléluia. Tu as été préparé, créé par Dieu, avec un but. Et aujourd'hui, nous voulons connaître, comprendre comment est-ce que je fais. J'en ai marre de faire le travail que je fais. J'en ai marre d'être ce que je suis. Mais au fait, à quoi exactement m'as-tu appelé? Parce que si je trouve ce à quoi tu m'as appelé, alors je vais focaliser mon énergie, mon attention, ma passion dans le domaine de mon appel. J'ai passé 7 ans à travailler ingénieur commercial en informatique pendant 5 ans, 2 ans en Italie, 3 ans en France, responsable partenariat. J'étais pas épanoui, j'allais au boulot, j'étais comme une masse lourde, je me trimballais. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'étais pas motivé du tout. Pourquoi? Parce que c'était pas ça mon appel. C'est pas ça ce à quoi j'étais appelé. N'oubliez pas que nous sommes tous des ambassadeurs pour Christ. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est détaché sur un autre territoire par son gouvernement, qui est au ciel, qui n'est pas sur la terre, donc qui est à l'abri de tout le terrorisme. Lorsqu'un ambassadeur est détaché, il est détaché avec une mission. Alléluia. Il a une mission. Et cette mission, c'est de ça que je vous parlais. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, mais que Dieu a choisi de révéler par le Saint-Esprit. Qui donc connaît les choses de l'Esprit, si ce n'est, qui donc connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Cette chose, ce rêve que tu as, cette vision que tu as étouffée, ta destinée est emmagasinée à l'intérieur de ton esprit. Alléluia. Il y a quelque chose sur la terre que Dieu t'a appelé à faire. La destinée dont je parle, ce n'est pas quelqu'un meurt à 25 ans et puis les gens disent « Ah, c'était sûrement son destin. » Ce n'est pas ça. Dites « Amen. » Je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas le destin. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Ce n'est pas un destin, c'est une mort Dieu a dit, je te rassasierai de longs jours. Je veux qu'on vive longtemps. Maintenant, si tu vis tout ton potentiel et que tu vides tout ce qu'il y avait en toi avant le temps, peut-être que Dieu dira, bon, soit on le laisse là et puis il continue simplement à parler un peu avec les gens, soit on le reprend. Mais dans tous les cas, tu feras comme Jésus. Jésus est mort à 33 ans. Mais avant de mourir, il pouvait dire, j'ai glorifié ton nom sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, c'est bon, je peux repartir. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Non, il n'a pas dit le mauvais, il a dit le bon. Ton adultère, ta colère, qui amène des combats, ce n'est pas le bon. Alors effectivement, ça t'amène des tribulations. Et tu es obligé de persévérer, de lutter pour t'en sortir, mais c'est toi qui as semé ça. Ce n'est pas le bon combat. Je parle du bon combat qui consiste à influencer les générations pour le royaume de Dieu. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'aime ça. Alors tu étais appelé sur la terre par Dieu pour un but précis. C'est ce que j'appelle le rêve. Qui a envie de connaître, comprendre comment bien identifier sa destinée? Alors moi je suis le premier à vouloir comprendre. Ce rêve que Dieu te donne, c'est ton rêve. Mais après ce rêve, il l'inclut dans un rêve beaucoup plus global. Parce que tu n'es pas seul sur la terre. Par contre, tu es la réponse de Dieu à des questions. Tu es la réponse, la solution que tu as préparée pour un problème sur la terre. Dites Amen. Est-ce que tu peux masser les slides, s'il te plaît? Je vais en commencer quelques-uns. Alléluia. Suivant. Et tu t'arrêtes là. Le premier point, c'est que ta destinée, ton rêve, ta vision est décidée par Dieu, mais il est découvert par toi. Il est à l'intérieur de toi. Il faut qu'il sorte de ton esprit. Amen. Point suivant. Mon frère, ma soeur, c'est important de noter ça. Tu es la réponse de Dieu à une question que se pose une catégorie de personnes sur la terre. Tu es la solution à un problème. Lorsque vous lisez la Bible, la réponse de Dieu au problème de l'humanité, la réponse de Dieu à la chute de Satan, c'était de susciter Jésus-Christ. La réponse de Dieu, lorsque Israël a crié vers Dieu, c'était de susciter un libérateur qu'on appelait Moïse. Lorsque vous lisez le livre des juges, chaque fois que le peuple de Dieu péchait, chaque fois qu'ils étaient frustrés, chaque fois que leur économie se dégradait, chaque fois que les maladies envahissaient le pays, chaque fois qu'il y avait toutes sortes de fléaux qui s'abattaient sur eux parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, la Bible dit que quand ils criaient à Dieu, la réponse de Dieu a toujours été une personne. Une personne qui va préparer. Une personne qui va faire passer par le moule, par le feu, pour l'épurer, pour le purifier, pour le travailler. Et une personne avec laquelle il va pouvoir dire, voici, lui, il vous montrera le chemin. Alléluia. Esther était la réponse de Dieu pour le peuple juif lorsqu'ils ont failli être exterminés, lorsqu'ils ont failli être mis à mort. Dites Amen. Mardoché lui a dit, Esther, on va faire un jeûne de 3 jours. Et puis Esther a dit, ah, mais on va faire un jeûne de 3 jours, mais qui suis-je moi pour approcher le roi? Lui a dit, va voir le roi. Elle a dit, mais ah, si je vais voir le roi, peut-être qu'il ne va pas m'accepter. Et Mardoché lui a dit, ne sais-tu pas que peut-être est-ce pour ce genre de moment que Dieu t'a fait reine? Parce que tu avais un rendez-vous avec ta destinée. Esther était la réponse dont le peuple d'Israël avait besoin. Joseph était la réponse dont l'Égypte avait besoin. J'ai décidé, par la grâce de Dieu, que mon ministère, c'est-à-dire mon service pour le royaume de Dieu, ne se limitera pas au corps de Christ. Parce que Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Toutes les nations, il n'a pas dit l'Église sera bénie par ta postérité, Abraham. Il a dit les nations de la terre. Ça veut dire que les nations de la terre doivent être bénies par le fruit de ce que Dieu aura travaillé à l'intérieur de moi. Pas seulement les croyants, mais même les non-croyants doivent recevoir quelque chose de moi, pensant. Mais pensez-vous que Martin Luther King n'a influencé que les chrétiens? Il a influencé le monde. Il a compris que les nations de la terre devaient être bénies au travers de sa vie. Ah, j'ai dit, Seigneur, je refuse de faire partie de cette majorité qui vit sur la terre sans jamais manifester. Oh non! Alléluia! Jésus était la réponse de Dieu au problème du péché. Point suivant, s'il te plaît. Tu n'es pas la réponse appropriée pour toutes les catégories d'individus. Jésus n'était pas la réponse ou la solution pour tout le monde. Jésus était la solution pour ceux qui avaient faim. Jésus était la solution pour tous ceux qui se considéraient comme étant des pauvres en esprit. Il n'était pas la solution pour les religieux. S'ils avaient compris leur médiocrité, leur pauvreté, leur frustration, il aurait été la réponse pour eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'était pas la réponse pour tout le monde. J'ai compris qu'il y a certaines personnes avec lesquelles je vais parler qui ne vont pas du tout accrocher à ce que je dis. Et souvent, ça a tendance à nous offusquer, à nous énerver. Ça nous blesse. Je lui parle du royaume de Dieu. Lui me dit, non, je suis bien, je suis religieux. Il dit, mon ami, tu n'as pas été appelé à ça. Et puis, il ne t'écoute pas. Tu ne vas pas t'offenser. Tu n'es pas la solution pour lui. Dites amen. Tu n'es pas la réponse dont il a besoin. Quand il y a le feu chez toi, quand tu vois un pompier, yes, le pompier est venu. Vrai ou faux? Quand tu es malade, quand tu vois un médecin, tu te réjouis. Alléluia, le médecin est là. Parce que là, il est ta réponse. Il est la réponse dont tu as besoin. Il est la solution dont j'ai besoin. Quand tu vois une coiffeuse et que tes cheveux sont sales, tu dis yes, alléluia. Si tes cheveux sont bien faits, tu passes à côté d'elle. Vous comprenez? Si quelqu'un passe à côté de toi, il ne reconnaît pas ta valeur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça veut simplement dire qu'il ne sait pas reconnaître ce que tu es. Ça veut simplement dire que pour la circonstance présente et pour le temps présent, je ne suis pas ce dont tu as besoin. Ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de toi aujourd'hui. Quelqu'un a besoin de ce que je transmets comme message. Parce que ça le fait sortir de lui-même. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Donc si quelqu'un n'en a pas besoin, je n'ai pas me frustrer. Ah, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas la réponse que Dieu a préparée pour toi. Peut-être que demain tu en auras tellement marre dans la médiocrité. Peut-être que demain tu en auras tellement marre de croupir au l'intérieur de toi et puis de dire, et puis un jour tu diras, je veux sortir de moi, j'en ai marre de survivre. Je veux passer de la survie à la stabilité. Ensuite, je veux passer de la stabilité au succès. Là, ce que je dirais t'intéressera. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de futur parce qu'ils aiment leur présent. Il est satisfait de sa vie aujourd'hui. J'ai un peu de ci, je fais mes 20 minutes de prière par jour, ça me suffit. Tu auras beau dire tout ce que tu veux, ça ne l'intéresse pas. Vous me suivez? Je ne suis pas dans la circonstance présente, je ne suis pas la solution dont il a besoin. Alors je ne me vexe pas. Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. Des gens viendront à l'église, ils vont écouter ce qu'on dit, ils vont dire, moi ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est mon démon. Mais vas-y, reste avec ton démon, il n'y a pas de problème. Je ne me sens pas vexé par ça. Parce que je sais que j'ai un appel, j'ai un focus. Et tout le monde n'a pas le même focus que moi. Et c'est pour ça que depuis que j'ai compris ça, je respecte tous les ministères. Je pourrais vous enseigner sur l'Apocalypse, je ne le ferai jamais. Ça ne sera pas naturel. Parce que ce n'est pas ma passion. Ce n'est pas mon obsession. Alors, s'il faut enseigner sur l'Apocalypse, je ferai venir quelqu'un qui est équilibré, qui a compris. Pas quelqu'un qui dit c'est New York, Babylone. C'est Rome. Non. Ça veut dire quelqu'un qui a vraiment étudié, qui parlera de ça. Je ne suis pas la réponse pour tout le monde. Dites amen. Il ne faut pas que ça te vexe. Si quelqu'un ne sait pas bénir Dieu pour toi, laisse tomber. Tu n'es pas la réponse dont il a besoin. Alléluia. Ça, je n'ai pas encore donné les critères qui permettent de reconnaître sa destinée. Je vous donne quelques éléments caractéristiques qu'il faut comprendre. Dernier point avec lequel je vais finir, s'il te plaît. Ah, j'aime ce point. Ta destinée, ton rêve, ta mission t'amènera vers les personnes qui te célébreront et qui ne te tolèreront pas seulement, mais qui te célébreront. Alléluia. Lorsque ceux vers lesquels Dieu t'a envoyé, parce que comprends bien mon frère, ma soeur, sur la terre aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin de ce que Dieu a placé en toi. Il y a quelqu'un qui a besoin, pas de toi, c'est-à-dire du terroriste que tu es. Je ne parle pas du vrai toi, je parle du faux toi. Mais quelqu'un a besoin de ce que Dieu a placé en toi. Et lorsque ce que Dieu a placé en toi est en train de se manifester, il y a des gens qui ont ce besoin. Lorsqu'ils te voient, ils disent « Ah, toi, je ne te lâche pas. » Les gens de mauvaise vie, les païens, quand ils voyaient Jésus, ils disaient « Hosanna au plus haut des cieux, le libérateur est arrivé. » Les pharisiens, quand ils voyaient Jésus, ils disaient « Ils le toléraient, ils ne le célébraient pas. » Si quelqu'un ne sait pas célébrer ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu est en train de faire de toi, laisse-le passer. Il n'appartient pas à ta destinée. Laisse-le partir. Dites Amen. Les gens qui appartiennent à ma destinée, les gens dont je suis la réponse, quand je dis moi, je parle de ce que Dieu a mis en moi. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose dont j'ai besoin. Dieu a mis en moi quelque chose dont tu as besoin. Lorsque ce que Dieu a mis en moi grandit en moi et que le monde commence à le voir, ceux pour qui je suis la réponse vont courir après moi pour dire, j'ai besoin de lui. Est-ce que tu peux m'accorder une demi-heure? Est-ce que tu peux m'accorder une heure? J'ai envie de passer du temps dans ta présence. Parce que tu as quelque chose dont j'ai besoin. Alléluia. Et ils vont célébrer Dieu. Pas pour toi en tant qu'être humain, mais ils vont célébrer Dieu pour ce que Dieu a mis en toi. Et ces gens-là appartiennent à ma destinée. Alors ta destinée t'emmènera vers ce qui te célèbre. Si quelqu'un te tolère, dis-lui, il n'y a pas de problème. Tu es comme les pharisiens avec toi. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître la valeur des gens. Dites Amen. Ils ne savent pas apprécier la valeur des gens que Dieu a mis autour d'eux. Et quand ils te voient comme quelqu'un d'ordinaire. Alors qu'il y a quelqu'un qui va te voir dehors, et dit, c'est lui. Ouh! Vous savez, Blaise m'a donné un message. Il y a des gens qui ont écouté les cassettes Metanoia et Vie en Côte d'Ivoire. Et qui veulent des cassettes en Côte d'Ivoire. Le pasteur Yves à Brazzaville, dès qu'il est arrivé à Brazzaville, il y a des pasteurs qui m'envoient même des emails. Qui veulent tous l'arracher. Ils ont dit, c'est vous qui avez fait Métanoïa et Vie. Alors vous êtes des gens que je dois côtoyer. C'est vous qui avez fait ça. La plupart des gens étaient convaincus que c'était des Américains. C'était des Américains qui avaient fait ça. Ils ne reviennent pas du fait que des Noirs. Ils n'ont pas compris que c'est eux qui l'enveloppent ça. Je suis à l'intérieur. Ça c'est la maison. C'est la résidence. Je suis à l'intérieur. Ils n'en reviennent pas. Alors aujourd'hui, ils sont tous en train de faire des instances pour dire, est-ce que tu peux venir? Il y a un gars qui m'a envoyé un email, je ne connais pas un pasteur à Brazzaville. Pasteur, il va, tous mes respects, j'ai besoin que vous veniez venir avec ce que Dieu a mis en vous, l'église dans laquelle je suis. C'est trop fort ce que j'ai écouté. Il dit, voilà quelqu'un. Lui, là, il a dit, Seigneur, bénis celui qui a fait ça. Et le juge va arriver là-bas. Je suis sûr qu'il va me dire, oh, pasteur. Non, mon ami, tu sais, on est ensemble, on est frères. Il va dire, comme toi. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont célébrer, bénir Dieu pour ce qu'il a mis dans ma vie. Alors si toi tu ne sais pas bénir Dieu pour moi, je m'en fiche. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que peut-être que tu n'appartiens pas à ma destinée. Alléluia. Donc je donne un point suivant. Aujourd'hui je vais déborder de quelques minutes. Point suivant. Alors comment tu fais pour trouver ton rêve? Première question, il y en a plusieurs, je vous en donne une première. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser ou accomplir si tu savais que tu ne peux pas échouer? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser ou accomplir dans la vie si tu sais que tu ne peux pas échouer? Si je te dis que tout ce dont tu as besoin, tu l'as maintenant. Ta facture est payée, tes factures sont payées, ta maison est payée. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il y a quelqu'un qui dit, là, tout de suite, quelqu'un qui dit, bah rien, rester à la maison. Non, ça veut dire que tu n'as pas compris encore
que Dieu a placé en toi quelque chose dont le monde a besoin. Alléluia. Si on te dit qu'on ne peut pas te payer, qu'est-ce que tu accepterais de faire avec passion? Ça t'a donné une indication de quelque chose que Dieu a placé en toi. On ne peut pas te payer. Mais si tu... On pourrait te payer, mais qu'est-ce que tu serais prêt à faire même si on ne te donne pas d'argent? Pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, qu'est-ce que tu ferais? Il y en a chez qui la passion, c'est faire à manger. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des chaînes de restaurants. Pas, ne me dis pas un restaurant. Je te dis, je t'impose des chaînes de restaurants. Il y en a qui ont une passion. Peut-être chez les cheveux. Alléluia. Ce que tu es prêt à faire, même si tu n'es pas rémunéré, indique simplement quelque chose que tu aimes naturellement. Et si c'est quelque chose que tu aimes naturellement, alors ça veut dire que tu as une aptitude et tu as une grâce que Dieu t'a donnée dans ce domaine. Exploite-le. Alléluia. Moi, c'est parler avec les gens. Booster la vie des gens. Même si on n'a même pas d'argent. Ah, ça me passionne. Point suivant. Ce qui te met le plus en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Et c'est vrai, dites Amen. Qu'est-ce qui te met en colère? Je ne parle pas de tes mauvaises émotions qui ne sont pas renouvelées. Je parle d'une colère qui produit, une colère qui est divine. Lorsque Moïse a vu un Égyptien frapper un Hébreu, Moïse s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que Moïse était un libérateur. C'était son appel. C'était un libérateur. Nous ne réagissons pas tous de la même manière à ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Un styliste n'aime pas quelqu'un qui est mal habillé. Ça veut dire qu'il était appelé à corriger ça dans sa vie. Un coiffeur n'aime pas quelqu'un qui est mal coiffé. Qu'est-ce qui attire premièrement ton attention quand tu vois quelqu'un? Il y en a quand ils te voient tout de suite les cheveux. Et ça veut dire que tu as un don naturel dedans. Et quand tu es mal coiffé, ça te met en colère. Il y en a quand ils voient que tu es mal habillé, ça les met en colère. Un dentiste, quand il voit des dents sales avec des caries, ça le met en colère. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à corriger quelque chose. Un médecin n'aime pas la maladie. Vous me suivez? Qu'est-ce qui te met en colère? Il y a des choses que je ne supporte pas. Ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai appelé à corriger. Il y a des gens qui vont rentrer ici en disant, je n'aime pas ce qui est fait ici. Je n'aime pas comment ça s'est fait. Mais ça veut dire que tu as appelé à corriger. C'est pas, il ne faut pas quitter l'église. Il faut rester au contraire et corriger ça. C'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Le Seigneur m'a donné une illustration une fois. Je vais donner un exemple ici à mercredi. Et je vais finir par ça. Un jeune petit garçon qui s'appelle Coco, qui est à Brazzaville. Et très tôt dans son enfance, je vais vous dire comment travaille Dieu. Il y en a qui arrivent à trouver leur destinée très tôt. Il y en a qui le trouvent tard. Mais voilà un petit garçon qui a vécu dans un quartier pauvre. Mais tous les jours, il demande à ses parents, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pont qui relie Brazzaville et Kinshasa? Alors les gens lui répondent, il n'y a pas besoin de pont. Aujourd'hui, pour aller à Kinshasa, on prend la navette, ou on prend l'avion, on prend le bateau. On prend la voiture? Non, passer par le fleuve, non? Ok. Non. Il n'y a pas de pont justement, on prend la voiture, il n'y a pas de pont. Ok. Alors il va demander à son ami, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pont qui relie Brazzaville à Kinshasa? Il dit, mais c'est comme ça, laisse tomber. C'est toujours comme ça, ça fait comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça, il n'y a pas de pont, on se débrouille sans ça. Et voilà ce petit, dans son cœur, ça ne va pas. Il dit, il faut qu'il y ait un pont. Pourquoi? Parce qu'il est la réponse de Dieu à une circonstance particulière. Il est la solution que Dieu a préparée pour un problème existant sur la terre. Il est appelé à compléter quelque chose que Dieu a placé en lui. Vous me suivez? Ah, il dit non, mais il faut qu'il y ait un pont. Et Pierre en parle à ses parents. Ses parents le disent. Et puis il dit à ses parents, mais il faut qu'il y ait un pont. Mais tais-toi, tu parles toujours de pont, on n'en a pas besoin. Mais ils sont devant lui qu'il faut qu'il y ait un pont. Alors lorsqu'il a identifié, s'il a écouté ce message, il va dire, je crois que puisque ça me met en colère, le fait qu'il n'y ait pas de pont, ça veut dire que c'est certainement un problème que j'ai été appelé à corriger. Alors, je me préparerai. Alors, je vais m'équiper, m'armer, parce qu'il faut que ce pont existe. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il faut que ce pont existe. Que me faut-il pour réaliser ce pont? Il faut que tu sois ingénieur ponts et chaussées. Que faut-il d'autre? Des investissements. D'accord. Alors, je vais aller faire des études d'ingénieur ponts et chaussées avec ma vision en tête. Parce que ça me brûle. Il faut que ce pont soit réalisé. Il faut que ce pont soit monté. Alors, il va aller faire ponts et chaussées. Il va travailler d'abord en Europe. Mais même quand il est en Europe, son cœur bouille. Brazzaville, Kinshasa, il faut qu'il y ait un pont. Dieu nous met sur la terre parce que nous avons quelque chose d'important. Avec quoi nous devons contribuer pour faire avancer l'humanité. Dites Amen. Nous devons faire avancer l'humanité. C'est parce que l'Église ne comprend pas ça, qu'elle reste enfermée dans l'Église. Et puis elle croit que parce qu'on est sauvé, maintenant on va partir au ciel. Non. Pendant que je suis sur la terre, Dieu a dit, assujettissez la terre. Domptez la terre. Laver des herbes, raser les arbres, mettez des maisons. Quelqu'un me dira, oui, mais en quoi est-ce que Dieu est glorifié? En quoi est-ce que Dieu est glorifié? Dieu est glorifié pas parce que tu viens à l'église, mon ami. Dieu est glorifié parce que tu manifestes son caractère. Et dans le milieu des ingénieurs ponts et chaussées où je travaillerai, dans le milieu de l'entreprise où je travaillerai, je contribuerai à être un témoignage. J'accomplirai le but pour lequel il m'a fait venir sur la terre. Ce but, ce n'est pas seulement quelque chose. Ce but, c'est d'abord soi-même porter du fruit et ensuite me multiplier. Dites Amen. Mais il n'empêche qu'en me multipliant, il y a quelque chose que je dois faire. Quand je dis multiplier, c'est reproduire l'image de Dieu. C'est-à-dire simplement être un instrument qui va contribuer à faire entrer d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Mais en même temps, puisque la Bible dit aussi que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Quelle activité dois-je faire sur la terre dans laquelle je m'épanouis? Je me suis posé cette question pendant 8 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'avais pas la réponse. Alors, je rencontre quelqu'un qui dit, ah, moi j'ai créé une société de service. Je dis, ah, moi aussi, je crois que je vais créer une société de service. Quelqu'un vend des cartes téléphoniques. Ah, mais tiens, c'est bon, ça marche ça. Je vends des cartes téléphoniques moi aussi. Mais je ne suis toujours pas épanoui. Quelqu'un, il a monté, il va en Allemagne, il achète des voitures, et puis il envoie au pays. Ah, moi aussi, je veux faire ça. Mais tu fais ça, mais tu n'es toujours pas épanoui. Pourquoi? C'est parce qu'il faut d'abord que tu t'interroges, que tu rentres à l'intérieur de toi-même pour dire, Seigneur, montre-moi ce que c'est. J'ai passé 8 mois jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que ton don naturel, c'est pas faire du commercial, c'est développer la vie des autres, c'est motiver les gens. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il y a un métier pour ça? Oui, on appelle ce métier motivateur. Ah bon? Coach. Ah bon? Alors j'ai dit, je vais devenir excellent dans ce domaine-là. Tout ce qui n'est pas de ce domaine-là, je vais mettre à côté. Donc, quel que soit le domaine que tu choisiras, tu peux exceller et monter au sommet. Mais dans ce domaine-là, et alors que tu monteras au sommet, tu verras que tu te sentiras simplement joyeuse. Pourquoi? Parce que tu feras quelque chose pour lequel Dieu t'a naturellement équipé. Tu n'essaieras pas d'être une photocopie de quelqu'un d'autre. Mais tu seras un être unique. Tu diras, il faut que tu saches une chose, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre, il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu meurs sans l'avoir fait, c'est une tragédie. C'est un péché envers les générations futures. Parce que tu n'auras pas transmis le relais. Parce que tu n'auras pas donné ce que tu aurais dû leur donner.
Parce que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose dont le monde entier a besoin. En toi et en moi, en nous tous. Quelque chose d'unique qui doit simplement être trouvé et être exploité, développé, amené à maturité. Et lorsque ça vient à maturité, alors la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir, un profond soupir que les fils de Dieu manifestent ce qu'ils sont. Alors là, le monde va acclamer et dire gloire à Dieu. Je n'avais jamais vu, mais je le vois au travers d'eux. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut que l'Église comprenne. On va incliner la tête. Nous te disons merci, notre Père. Assurément, Père, tu veux nous faire entrer dans notre destinée. Tu veux nous faire comprendre, Père, que tu nous as sauvés par ton amour pour de bonnes œuvres. Quel travail, quelle œuvre révèle à chacun de nous. Avec ce que nous avons vu aujourd'hui, commence déjà à parler à chacun de nous. Avec ce que nous continuerons la semaine prochaine, continue de parler à chacun de nous. Mais s'il te plaît, jamais ne nous laisse quitter la terre sans avoir fait cette mission. Sans avoir accompli ce but. Sans être capable de dire, ça y est, j'ai fini. Je peux repartir dans la présence de Dieu pour l'éternité. Parce que j'ai transmis le relais. J'ai donné le relais aux générations futures. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur de comprendre ce rêve que toi tu avais pour lui. Pas son rêve, mais le tien que tu as imprimé dans son esprit. Accorde à chacun de nous de comprendre, de saisir ce rêve et de focaliser notre énergie, nos fréquentations, notre attention, Seigneur, dans la course pour réaliser ce but pour lequel tu nous as créés. Parce que nous savons que c'est la clé de notre épanouissement. Nous savons que c'est la clé de notre joie. Nous savons que c'est la clé de notre prospérité. Accorde-nous d'apprendre, Seigneur, et d'avoir l'intelligence renouvelée dans le nom excellent, puissant, glorieux, majestueux de Jésus-Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Merci de ce que tu nous fais comprendre et tu nous fais nous rappeler que nous avons besoin d'abord de la citoyenneté avant de pouvoir bénéficier de ces choses. Parce que à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? À quoi servirait-il, Seigneur, de réussir sur la terre, en fait, d'avoir un faux semblant de réussite, si nous ne sommes pas d'abord citoyens munis du passeport céleste? Alors ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur, ce matin. Et que personne ne reparte d'ici comme il est venu. Dans le nom excellent, majestueux, puissant, glorieux. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de la différence. Le nom de Jehoshua, le Messiah. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Que quelqu'un acclame.
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette semence qui va libérer tout ce qui dort en nous. Amen.